Dans un premier temps, je vais vous parler globalement de la mobilisation industrielle qui s'est produite dans notre pays, de ses aspects politiques, économiques, éventuels, et de tout ce qui a motivé et tout ce qui a animé le dispositif. Et ensuite, si vous n'êtes pas épuisé, je vous parlerai de ce qui s'est passé en Midi-Pyrénées particulièrement. J'ai retrouvé cette image dans un vieux grimoire, comme il en a eu beaucoup qui ont été publiés postérieurement à la Première Guerre mondiale, et c'est l'imagerie qui m'a attiré plutôt que effectivement la démonstration, mais la démonstration est très claire. Il s'est agi de fabriquer énormément de choses pour que nos soldats fassent face à l'invasion de notre pays. Mais pour comprendre le dispositif, il faut se mettre dans l'état d'esprit de ce qui s'est passé au début de notre Première Guerre mondiale, et il s'est passé, vu sous l'angle des armées et des besoins des armées, d'abord deux grandes questions. La première, ça a été l'éloignement des moyens qui se trouvaient dans l'est de la France postérieurement à la guerre de 70. Et ça a été le travail de la Troisième République à partir des années 80, et qui a rapatrié vers le sud. Je vous montrerai une carte dans un instant. Le deuxième, ça a été l'énorme puissance de l'artillerie liée à la tradition napoléonienne essentiellement, puisque Napoléon avait instauré cette arme comme étant la reine des batailles, plus que l'infanterie. C'était la sienne, évidemment. Et comme je dis le texte, les officiers considérer que cette arme, grâce au fameux merveilleux canon 75 adopté en 1897, le merveilleux n'est pas de moi, il est des textes de l'époque, et bien sûr bien merveilleux, plus merveilleux que les grosses Bertha qui étaient construites de l'autre côté du Rhin. Et je cite bien sûr Napoléon Bonaparte qui a dit que l'artillerie, l'infanterie n'était rien sans l'artillerie, et que effectivement, après le siège de Toulon, il avait été le meilleur. Et voilà une carte de ce qui s'est passé. Quand la France a perdu l'Alsace et la Lorraine, elle a perdu deux grands arsenaux, qui étaient Metz, où était une fonderie de canons, et une école de pyrotechnie. On appelait ça une école de pyrotechnie. En fait, c'était pour former les artificiers du champ de bataille, puisque jusque à la fin du 19e siècle, les munitions étaient confectionnées sur le champ de bataille par des soldats artificiers. Il fallait les former. Et postérieurement, ça s'est transformé en usine de pyrotechnie, bien évidemment. Et en plaine d'Alsace, dans un merveilleux site, il y avait une magnifique manufacture d'armes blanches, Kligenthal, qui a été rapatriée sur Châtellerault, l'étoile qui est au centre. Et l'école de Metz a été rapatriée sur Bourges, essentiellement. Mais il y avait aussi une fonderie de canons à Douai, c'est l'étoile rouge qui se trouve en haut, et qui a été rapatriée sur Tarbes, essentiellement, et un peu sur, et en partie sur Rennes et Bourges. Mais c'est Tarbes qui a reçu la majorité de ses déplacements. Et j'y reviendrai tout à l'heure, parce que, effectivement, on le trouve. Alors après, les autres sites sont importants, je n'en doute pas, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Bien sûr, des sites midi-pyrénéens. Il n'y a pas de site de l'Anglo-Océanie ou Sillonnais, pardonnez-moi, mais je pense que quand on aura fait la fusion, le sujet sera toujours d'actualité. Par contre, vous trouvez sur cette carte des sites importants. Les sites en violet sont des sites essentiellement pyrotechniques, c'est-à-dire des sites de fabrication de poudre à canon ou d'explosifs, je viens de dire, au niveau chimique. Et les sites en bleu sont des sites d'assemblage, de construction d'armes et de chargement en explosifs. Je n'ai pas représenté les sites maritimes, ils n'ont pas changé. Il y a toujours, bien sûr, Brest, Cherbourg, Bordeaux, Rochefort, qui était un grand site important à l'époque. Donc, un rapatriement loin de l'Est. Je continue. S'il veut bien avancer, il ne veut plus. Tiens, c'est bizarre. D'habitude, il avance tout seul. Ok, je ne veux pas. Le deuxième élément important, ça a été au cours du 18e siècle, 19e siècle, les transformations sur l'angle industriel. Le premier, bien évidemment, l'utilisation de la force motrice. Nos manufactures d'armes étaient toujours dans des sites où il y avait des moulins à eau. Je pense à Saint-Étienne, je pense à Tulle, je pense à Bourges. Klingenthal y était, bien évidemment, en Alsace, mais on est passé à la vapeur et à la force motrice. Et on a pu démultiplier les capacités de production. Le deuxième, c'est bien évidemment la transformation métallurgique, l'utilisation de la fonte et surtout de l'acier. La mécanique a été révolutionnée par d'abord réellement à la période de la première République, c'est-à-dire la Révolution, par un certain nombre de grands personnages comme des révolutionnaires dont le nom m'échappe à la seconde, mais ça va me revenir, et qui ont défini ce que c'était que le système métrique, ce qui a permis, avec le maréchal de Grimoval, à la fin du XVIIIe siècle, de normaliser l'interchangeabilité des pièces d'armes. Ça, c'était un élément fondamental pour que sur le champ de bataille, la maintenance des machines, des fusils, des canons se fasse facilement, et le système métrique a prieur de la Côte d'Or qui a été un des grands transformateurs, et j'ai eu la chance d'habiter dans une rue qui portait son nom, c'est pour ça que j'y tiens. Et enfin, bien sûr, la transformation des agents propulsifs avec l'invention de Paul Vieille, la nitrocellulose, qui a remplacé la poudre noire. Avantage considérable. Paul Vieille, c'est 1880 de la même façon. Je vous montrerai une photo de lui. Et avantage, plus de fumée. Donc, on ne détectait pas la position des soldats tireurs. Et deuxièmement, bien sûr, la courbe de développement de la balistique intérieure est bien plus performante et donc l'énergie de la combustion de la poudre est récupérée en plus grande quantité. Ça, ce sont les avantages du système. Les innovations. On est passé du chargement par la gueule des canons et des fusils au chargement par la culasse. Ça a été une transformation inventée par un Prussien qui s'appelait Dreyse, mais qui a été appliqué en France par le colonel Gras, mais son fusil n'a pas porté son nom. Le nom a été donné au colonel Lebel, dont vous avez une photo dans un coin, mais ça a été appliqué aussi au canon de 75. Les canons de gros calibre, à partir de 75-90, étaient déjà chargés par la culasse, parce qu'on savait faire l'étanchéité dans ces dimensions-là. On ne savait pas la faire dans les dimensions plus petites, et c'est le grand travail qu'a fait Gras essentiellement. Mais son nom n'est pas resté concernant le fusil, et c'est dommage. Enfin, la grande innovation du chargement par la culasse, c'est effectivement le soldat, il peut tirer couché, donc il a une meilleure position de stabilité pour assurer la visée, et bien évidemment, il est moins exposé aux tirs adverses. Enfin, la cadence de tir a été multipliée par 10. 10, c'est fondamental, effectivement. Vous avez mis une cartouche du fusil Lebel, une image du fusil Lebel. Et puis, bien sûr, Monsieur Paul Vieille, qui a été l'inventeur de ce processus. Enfin, concernant les canons, c'était l'invention du colonel Saint-Clair de Ville. Cette famille Saint-Clair de Ville est une grande famille d'industriels de l'Est de la France, mais il n'y en a qu'un qui a été polytechnicien, c'est celui qui est en bas à droite, et qui a rentré dans l'armée, comme il y en avait beaucoup à ces périodes-là, de polytechniciens, 100 ans, et donc il a inventé le lien élastique. Le lien élastique, c'est l'objet qui permet à ce que le canon, quand il tire, l'énergie cinétique, la quantité de mouvement emporté par le projectile et ce qui reste de poudre est communiqué par effet de recul tout simplement à la masse du canon, et le canon recule. À l'époque, il fallait des soldats pour pousser, ramener le canon en position, le repointer, et effectivement, lui, il a inventé un système avec un frein hydraulique. C'était pas évident, à l'époque, pour avoir l'étanchéité aux pressions correspondantes, un frein hydraulique qui rendissait le recul du canon sur une glissière et permettait, par récupération d'énergie, à le remettre en position, multiplier là aussi la cadence de 2 coups par minute à 20 coups par minute. Il faut savoir que sur le plan historique, le développement du canon 75 s'est fait de façon élastique, de façon secrète, tellement secrète que le gouvernement avait décidé à l'époque de ne pas financer les travaux de Saint-Éclair de Ville sur le budget, parce que les délibérations sur le budget se faisaient à la Chambre et que, bien évidemment, l'ennemi potentiel qui était désigné dans les livres blancs, s'il y en existait à l'époque, l'Allemand, aurait su ce qui se passait et il a été financé sur des fonds secrets. L'information de l'adversaire de l'ennemi n'a été que tardive, même s'ils ont su l'appliquer, mais postérieurement, plusieurs années ont été gagnées grâce à cet artifice qui n'était pas constitutionnel. Et bien évidemment, l'amorçage des obus par les fusées, la micromécanique étant aussi un développement important qui s'est produit essentiellement dans les pays de Savoie et de Lyonnais, parce qu'il y avait là déjà des industries mécaniques qui faisaient des petits objets pour faire les fusées de contact. Vous avez là 2 photos aussi de ce qui est le canon 75, il n'est pas très belle, pardonnez-moi, mais qui montre très clairement que c'est un engin mobile, alors que les Bertha allemandes étaient très lourdes à manipuler. Regardez comment les soldats s'échinent à la faire avancer et comment elle était munie de patins pour ne pas s'enfouir dans la boue. Les soldats et les officiers de nos armées à l'époque se souvenaient des campagnes en Centre-Europe, et notamment la campagne de Pologne 1807, comme la campagne de Russie postérieurement, où les charrois se déplaçaient difficilement dans ces pays et où il y a beaucoup de boue, notamment l'hiver. Donc, en 1914, notre armée française était une armée équipée pour faire la guerre de mouvement. C'était pas le cas de l'armée allemande. Nous avions des canons précis, mobiles, au tir rapide, des mitrailleuses, pas autant que les Allemands, peu de canons lourds, peu de moyens de traction, peu de moyens de transport, peu de protection individuelle des soldats, le casque est apparu tardivement. L'effort financier était de moitié à partir de 1900, vous avez là les chiffres, de moitié de celui qu'avait fait le Reich. C'est considérable. Aujourd'hui, il y a des grands débats pour savoir si l'on finance assez bien nos armées pour faire face aux menaces que nous pressentons et qui malheureusement quelquefois se réalisent actuellement. Eh bien, la France, dans cette période-là, était dans la même situation. Souvenez-vous que c'est la période 1905 de l'affaire Dreyfus, etc., etc. Et vous voyez, les budgets qui étaient consacrés en France et en Allemagne, c'est qui a fait en sorte que notre armée, qui est partie faire une guerre de mouvement avec peu de moyens, je dis bien peu de moyens, mais beaucoup d'hommes, eh bien, elle s'est retrouvée à faire une guerre de position assez rapidement et avec les mêmes hommes et pas les mêmes moyens. L'armée Reich était beaucoup plus mécanisée, il y avait beaucoup plus de mitrailleuses, elle avait beaucoup plus de mitrailleuses, c'était un problème financier simplement. Ils avaient beaucoup développé les mortiers, qui se rappelleront, les Minenwerfer, qui étaient les mortiers de tranchée, et des canons lourds, malheureusement, peu adapté à la manœuvre, effectivement. Et un peu politiquement, je vais vous montrer quelques citations des débats politiques qui se sont passés à la Chambre à cette époque-là, dès le 13 juillet, c'est-à-dire avant le début de la guerre. Le sénateur Humbert, qui était un Meusien, évidemment, ils étaient plus sensibles que les autres, a crié au loup en disant « Nous avons un canon 75 merveilleux, qui est merveilleux, mais cela n'est pas suffisant parce que notre ministre croit qu'on n'en a pas fait assez. » Et pourtant, dès le mois d'août, cela a été rappelé, les consommations ont été exponentielles. Je vous montre des chiffres. 100 000 obus de 75 ont déjà été tirés le 20 septembre 1914. L'offensive de Verdun a coûté 200 000 obus par jour à la France et 50 000 obus de 105 par jour. quand les Allemands ont fait l'offensive, ont ensuite l'offensive de Petrograd, Saint-Pétersbourg, ou Leningrad, comme vous voudrez, ils ont déversé avec 1500 canons 700 000 projectiles, soit l'équivalent de 100 trains, en moyenne 120 coups à l'heure, 2 à la minute. Les unités n'étaient pas réapprovisionnées suffisamment. Seules celles qui étaient sur Verdun ont été privilégiées. À Verdun, les Allemands ont lancé 150 tonnes de projectiles par kilomètre carré et par jour. Vous imaginez le processus jusqu'à 300 tonnes. Voilà la situation de consommation de munitions, rien que des munitions d'artillerie. Alors évidemment, le gouvernement s'en est ému dès la mi-septembre. Le Premier ministre de la Défense, alors je cite les propos relevés dans des documents, mobiliser toute l'industrie, d'employer toutes les industries disponibles, quelles eussent été faites jusqu'à l'occupation, fabriquer à force, des munitions, d'abord des munitions, des matériels ensuite. Les hommes étaient nécessaires pour cela, il fallait des mécaniciens, il fallait des ouvriers, et effectivement, il y a eu un recrutement au sein des soldats qui étaient dans les forces. On est allé chercher tous les ouvriers et tous les ajusteurs. Vous imaginez que immédiatement, il y a un certain nombre de gens qui n'avaient pas envie d'être au contact des forces et qui ont retourné chez eux. Il y a eu toute une polémique à cette époque-là sur le problème des gens qui étaient rapatriés dans leurs usines pour produire parce que c'était nécessaire. Mais évidemment, vous imaginez les jalousies que cela a entraîné, ce qui fait qu'il est resté dans les forces beaucoup plus d'agriculteurs que d'industriels. Bon, c'était malheureusement nécessaire. Ça, c'est quand même... ça a mis un certain temps, mais ça s'est un peu rétabli. Ça a entraîné des problèmes que je n'aborderai pas, qui étaient des problèmes de commandement. Vous voyez ce qui s'est raconté à la Chambre. Les phrases que je vous projette sont des phrases lyriques, comme ils savaient faire les hommes politiques de l'époque, bien évidemment. Et ils avaient des phrases choc, des canons, des munitions. Il faut déchaîner la tempête d'acide et de millilitres. L'homme admirable qu'est le soldat français, il doit être nourri, il doit être bien habillé, il doit être bien équipé, s'il a des fusils, des cartouches et des canons et des munitions, tout cela sera utile pour qu'il gagne. Voilà ce que racontaient les hommes politiques. Alors, il a été mis en place un ministère, ou un secrétariat d'État, comme on les appelait à l'époque, de l'armement et de l'artillerie. Le premier ministre qui a été désigné, c'est M. Albert Thomas. Il a été désigné dès le mois début septembre, le 26 août 2014, la date est affichée, et j'ai trouvé une photo de ce brave homme. C'était un membre du Parti Socialiste, Jean Jaurès, et à 36 ans, dans le cabinet Viviani, il a été affecté à cette tâche. Il y est resté jusqu'à la fin. Il y est resté jusqu'à la fin. Ça, c'est très important parce qu'il y a eu la continuité de la politique et de l'action. J'ai trouvé dans mes recherches des photos de ce brave homme en train de haranguer les troupes. Je n'ai pas osé vous montrer celle dans laquelle on le représente à l'égard des troupes russes, postérieurement à la révolution russe, donc sur le front, un front de l'Est quelque part, où il a un comportement typique de l'époque, le poing levé en les troupes des troupes russes pour les engager au combat. Mais il n'y a pas eu que lui. Lui, ça a été l'artisan principal tout le long de la guerre. Il y a eu, bien évidemment, le président de la commission des armements, M. Albert Brun, qui est devenu postérieurement président de la République. C'est encore une fois un homme qui a été mobilisé ensuite et a été revenu prendre son poste de député. Il y a eu M. Miliès-Lacroix. Ça, c'était un homme très important parce que c'est lui qui s'est occupé tout le long de la guerre des financements de ces opérations-là. C'était un réfusard, mais c'était un homme du Sud, venu de Dax, et l'histoire dit qu'il était ardent défenseur de la tauromachie. C'est un élément qui nous permet de sortir du sujet, de ce sujet si sévère à l'instant. Un autre homme important, c'était M. Loucheur. Lui, c'est pas un homme politique, c'était tout simplement un ingénieur polytechnicien qui avait monté une entreprise qui s'appelait la Générale Entreprise, entreprise essentiellement de travaux publics et de chutes d'eau, parce qu'à l'époque encore, on a utilisé au début de ce siècle beaucoup les chutes d'eau, et il a été engagé par Albert Thomas, sur sa proposition, il est devenu secrétaire d'État adjoint. Il a été un des acteurs de la construction des grandes usines d'armement. Alors, je vous montre là quelques photos qui sont très amusantes. Parce que, le fusil Lebel, vous le connaissez. Le fusil, la mitrailleuse Hotchkiss, que nos grands-pères ou arrière-grands-pères ont beaucoup utilisé. Mais surtout, celle de droite. Celle de droite, c'est une mitrailleuse qu'on appelle Gatling, parce que c'est M. Gatling, un Américain, qui a inventé ce processus, utilisé déjà dans la guerre de sécession et dans les guerres, coloniales américaines contre les Indiens. C'est la mitrailleuse dans laquelle les canons tournent sur un barillet et permettent l'introduction de la cartouche et son évacuation avec l'action mécanique humaine. Il tourne qui fait tourner tout cela, il faut un gars costaud, et ça permet effectivement d'avoir un débit qui est variable en fonction de la force du biceps du bonhomme. Aujourd'hui, ces genres de canons sont utilisés, le même principe de canon est utilisé sur le Rafale, dans un calibre de 30 mm, et il tire à la vitesse de à la cadence de 4000 coups par minute. J'ai eu l'honneur de déposer un brevet sur ce canon-là, et ainsi que d'autres, et quelques autres. Mais c'est le même principe de l'époque. Évidemment, la technologie a beaucoup avancé. Vous voyez aussi des positions de tir correspondantes. Un homme très important a été André Citroën. André Citroën est un Polonais d'origine, la famille Citroën est d'origine polonaise, ce qui explique l'umlaut sur le E, ou les doubles voix sur le E, qui a été supprimé ultérieurement parce que effectivement, c'était pas très satisfaisant sur le plan commercial. Ceci étant, il était polytechnicien et mal classé en sortie, ce qui fait qu'il se retrouvait militaire dans un régiment d'artillerie. Il n'y est pas resté longtemps pour former la fameuse société citroëniste. Istin pour fabriquer les engrenages à dents coniques. Avantage extraordinaire de ces engrenages par rapport aux engrenages à dents droites, c'était effectivement de ne pas faire de bruit, premièrement, et d'avoir une transmission beaucoup plus souple. Et il a gagné de l'argent avec son collègue Istin, qui était lui un financier, il a racheté les automobiles Morse, et il a milité notamment au MEDEF de l'époque, qui s'appelait le Comité des Forges. C'était un ardent défenseur de l'OST, ce qu'on appelle l'OST, c'est-à-dire l'organisation du travail à la mode fordienne, de la répartition des tâches, dont il y a des très beaux films qui ont été faits postérieurement. Il n'était pas du tout sensible à l'organisation des postes de travail pour que le travailleur soit dans les meilleures conditions sur le plan psychologique, mais sur le plan physique, c'est-à-dire du réel travail. Ceci étant, lui aussi mobilisé dans l'artillerie, il a convaincu son chef qu'il serait mieux à faire de l'industrie, il a été démobilisé et il a passé un contrat avec le directeur de l'artillerie des Coques, qui était le général Baquet, qui était un grand personnage. Et on rappellerait aujourd'hui le directeur de l'armement, le délégué général pour l'armement. Il lui a proposé de monter une usine à Paris, puisque ces usines étaient parisiennes, dans un lieu que tout le monde connaît, qui est le quai de Javel, où il ferait 10 000 obus par jour, dans les 6 mois. Et il y est arrivé dans les 4 mois. Bien évidemment, il a gagné beaucoup d'argent. Dès les années 1916, il y a un chiffre cité dans les bouquins, 51 000 en décembre 1917. Il a conseillé Albert Thomas et je connais bien l'histoire de Citroën pour avoir dirigé une usine qu'il a construite en 1917, l'ancien 1917, avec celui dont je vous parlais tout à l'heure, l'entrepreneur de la générale d'entreprise, qui est la grande usine de munitions qui a été rêvée par M. Albert Thomas, pas trop loin du front, mais suffisamment loin pour ne pas être inquiété, et il avait choisi le site de Roanne. Le site de Roanne, pourquoi? Parce qu'il était près du Creusot, où nous avions la mine de charbon et le fer, et la métallurgie, et la maison Schneider, et nous avions au sud aussi les mines de Saint-Étienne, qui sont des mines de charbon. Donc il y avait l'énergie, c'était une zone plate. Et il y avait l'eau de la Loire en grande quantité disponible pour faire tourner les machines à vapeur. Et ils ont donc là imaginé de construire une usine de munitions pour fabriquer des obus de 75 et de 155. La partie qui a été construite fait 24 hectares en trois grands ateliers qui s'appelaient l'atelier Somme, l'atelier Marne et l'atelier Verdun. Et j'ai eu l'honneur de diriger cette usine parce qu'elle a été transformée après la Deuxième Guerre mondiale en usine de fabrication de production des blindés. C'était encore la grande usine française. Elle existe toujours, mais on en produit beaucoup moins qu'à mon époque. Les besoins ne sont pas les mêmes. Dans cette usine, on travaillait 10 000 personnes. Je reviendrai sur le sujet. Beaucoup d'étrangers. Citroën était en même temps un chef d'entreprise, je dirais, généreux pour ses personnels dans l'objectif de la production. Vous avez là une photo d'un atelier de l'usine Javel, du quai de Javel, où vous avez déjà, vous apercevez que les personnels sont des femmes, mais vous avez juste à côté la photo avec le service médical, la clinique dentaire, et j'ai pas mis la crèche, mais il y a la crèche pour que ces dames puissent aller travailler et que les enfants soient soignés et gardés pendant qu'elles travaillent. Vous avez aussi d'autres photos. Dans les autres photos, vous voyez bien sûr la coopération entre les militaires des armées détachées pour vérifier que tout simplement la qualité du travail et permettre l'expédition des obus. Au quai de Javel, on ne faisait que les obus sous l'angle mécanique. Bien évidemment, on ne les chargeait pas en explosif. Le chargement en explosif se faisait dans la grande usine de Bourges, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Le processus qualité que nous connaissons aujourd'hui qui permet de certifier une usine n'existait pas. On faisait du contrôle à l'outil, avec les outils de contrôle simplement mécaniques. Des passe-calibres, comme on dit. D'autres grands industriels ont travaillé, c'était Charles Schneider, tout le monde connaît la maison Schneider, qui existait avant, il avait des usines bien sûr au Creusot, c'était la métallurgie et la forge, vous avez une forge, on a beaucoup de photos de forges de l'époque, il avait des installations près des ports parce qu'il travaillait pour la marine, même si les canons de marine étaient faits à Angoulême, il y avait beaucoup d'adaptations à faire sur les bateaux et donc il avait des usines à Toulon et en Gironde. L'usine du Havre était aussi une usine de munitions et ce n'était pas pour la marine. Monsieur Schneider a employé quand même 25 000 personnes en 1914. C'était déjà un effectif considérable. Il avait 4 200 machines-outils. Par contre, il y a d'autres industriels que je ne fais que citer parce qu'on y reviendra. On reviendra sur Louis Renault tout à l'heure, qui n'était qu'un petit industriel qui fabriquait quelques automobiles. Il y avait les forges de Châtillon, Chavardy, Commentry, et puis les grandes usines de Bourges, qui étaient des usines de chargement et manipulation de munitions. J'ai travaillé quelques années à Bourges, et il y a encore la trace de tout un quartier de ces usines de Bourges qui étaient faites pour loger les personnels sous des baraquements. On avait même construit une église, bien évidemment, et on avait même construit un cimetière parce qu'il y avait eu bien sûr un nombre d'accidents pyrotechniques. Je pense que l'exposition au danger était aussi grande dans ces usines-là qu'il en était sur le front, voire plus. Amélie-Pyrénées, après la guerre de 70, il a été décidé d'installer une poudrerie à Toulouse. L'objectif, c'était d'installer des machines pour la réalisation de ce qu'avait fait Paul Vieille, c'est-à-dire la nitrocellulose. Donc, pour cela, il fallait de la cellulose, le coton, qui est devenu le coton poudre, qu'on appelait le coton poudre parce que, effectivement, quand il était, il était chargé d'ion NO3, effectivement, il était combustible. J'ai pas dit explosif. J'ai failli dire explosif, s'il était combustible. Et la deuxième grande invention de Monsieur Paul Vieille, ça a été le laminage de ces cotons poudres sous forme de plaquettes, que tout le monde a peut-être vu, ces espèces de nouilles qui sont en deux dimensions différentes et qui vont brûler par la surface extérieure et donc générer des gaz. Et suivant leur forme, suivant que c'est un parallélépipède, une bande, une sphère, la dégagement des gaz va être avec une célérité différente. Et c'est là toute la grande astuce de M. Paul Vieille, indépendamment du fait que ces poudres ne faisaient pas de fumée et que le dégagement de gaz n'était pas instantané comme dans le cas de la combustion de la poudre noire, j'allais dire de l'explosion de la poudre noire, parce que souvent la poudre noire explosait rapidement. Et donc, la montée en pression dans le canon était beaucoup moins brutale qu'avec la poudre noire, où on a un pic de pression et ensuite une dépression rapide. Avec la poudre B, on a une montée en pression qui est beaucoup plus lente parce qu'elle dégage plus lentement, la poudre brûle plus lentement, elle monte moins haut en pression et puis la dépression, c'est-à-dire la dépression adiabatique, elle se produit pour propulser pour procéder pour le projectile. C'était un gain fabuleux, il faut le reconnaître, d'autant plus qu'il y avait beaucoup moins d'accidents du fait de la hauteur de la pression. Dans le canon du Charles Clerc, la pression atteint des 1800 bars, ce qui est déjà dans les microsecondes de la combustion, donc ce qui oblige à avoir une épaisseur de métal suffisante autour pour contenir tout cela, mais quand c'est la poudre noire, la pression monte plus haut, 2000-3000 bars. Il y a eu beaucoup d'accidents, surtout quand on ne maîtrisait pas totalement, complètement la métallurgie du canon et de la chambre. C'est un élément important. Donc, il fallait faire la poudre B en grande quantité. C'est un objet délicat à transporter parce qu'il se détériore rapidement, donc il faut le conserver à l'abri de l'humidité, dans des caissons fermés, soudés, et transportés sur le champ de bataille dans des conditions que vous imaginez, pour éviter de le détériorer. Donc, c'était un peu délicat. Et comme ça, c'est quand même un peu dangereux s'il y a des grandes quantités et s'il y a des incendies autour, il faut le stocker. Ce qui explique que tous les Toulousains connaissent, c'est-à-dire l'existence des fameuses poudrières et de ces marais qui se trouvent le long de la Garonne, dans lesquels on a mis à l'époque des caisses en bois qui contenaient des caisses métalliques dans lesquelles étaient enfermées la poudre. On appelait ça des ballastières. Pourquoi? Parce que ça, tout le monde connaît, la Dépêche en parle encore souvent, parce qu'il y a encore des ballastières où il y a de la poudre à canon de l'époque, que l'on n'a jamais sorti. Parce que ce n'est pas dangereux de les sortir, parce que je pense qu'elles sont tellement, assagies par la présence de l'eau, qu'il n'y aura pas de risque. Le problème, c'est la quantité et la main d'œuvre qu'il faut pour aller sortir cela et aller les emmener sur un champ en sécurité pour les faire brûler. Ça va brûler, ça ne va pas exploser. Le seul problème, c'est un problème de coût, tout autre chose, et je pense que l'histoire conservera ces balassières pendant longtemps. Ça permet d'avoir des endroits fort agréables pour les grenouilles et autres insectes qui intéressent les écologistes. C'est une opinion personnelle. Donc on a créé, et cette poudrerie a été créée en 1960, après 71. En même temps, il a été créé à Castres une annexe pour avoir des dépôts. Et je parlerai de Castres tout à l'heure. De la même façon, il y avait à Toulouse un arsenal et une cartoucherie, et on a accru la production, je vais y revenir. Tarbes était la fonderie de canons qui est venue de Metz et qui n'a pas beaucoup fondé de canons d'ailleurs, mais qui s'est transformée en usine de production de canons et de munitions, l'arsenal de Castres, et la mobilisation de toutes les industries privées à force, comme avait dit le ministre. Et effectivement, toutes les industries françaises se sont arrêtées de travailler dans la production, je dirais, commerciale pour faire des pièces d'armement. C'est extraordinaire de voir comment les chroniques de cette époque-là, les journaux, les publications rapportent cette transformation. Alors, vous voyez sur la diapositive des noms. J'ai écrit ATE, ATS, ACS. Seuls les gens informés sachent savoir ce que cela veut dire. ATE, ça veut dire Atelier de Toulouse. TE, première, dernière lettre. Et c'est comme ça que vous trouvez ATS, ACS, et puis tous les autres noms que l'on peut retrouver. ABS pour Bourges, ARS pour Rennes, ARE pour Rouen, etc. Il n'y a que les manufactures d'armes qui ont gardé leur nom. C'est de cette époque-là. C'est de cette époque-là. Concernant la poudrerie de Toulouse, voilà. Une photo intéressante de l'époque que l'on trouve dans les archives, qui étaient vendues dans le public puisqu'elles servaient à transporter des grandes postales. Et sur le plan de Toulouse, vous retrouvez bien évidemment l'implantation actuelle en bas à gauche, l'implantation qui est encore actuelle, je dirais, de la poudrerie de la SNPE. Bien évidemment, il y avait des dépôts du côté de ce qui est AZF, qui a été ultérieurement à ZF. Donc, ils ne faisaient que de la poudre à canon. Ils faisaient que de la poudre à canon et ils ont employé énormément de personnel féminin. Voilà quelques photos qu'on trouve assez facilement sur l'utilisation des personnels féminins. Vous voyez comme elles sont bien joyeuses. C'est en bas à gauche qui fait marcher je ne sais quelle presse de compression. Celle qui est à droite, elle est dans un endroit qui doit être, à mon avis, un peu délicat, c'est de faire de la nitration. Là, il y a de l'acide nitrique qui se balade avec du coton, de la poudre. L'autre, elle fait passer le train, ainsi qu'il y a des pompiers. Beaucoup de tâches fournies. Je vous donnerai les effectifs. Concernant ce qu'on appelle l'arsenal ou la cartoucherie ou l'ATE, cet arsenal, il faut savoir qu'il a été implanté en 1792 sur le site qui est le site actuel de l'université Capitole pour servir de base logistique à les armées face à l'Espagne Bourbon, les Bourbons qui avaient une envie, c'était réinstaller un roi Bourbon sur le trône de France. Donc il fallait avoir, et il y avait une armée des Pyrénées qui était prête à intervenir si les Bourbons avaient fait mine de s'intéresser. Elle a été fort utile ultérieurement, cette implantation, vous en doutez, quand il y a eu la guerre d'Espagne, 1808, et jusqu'à la bataille de Toulouse, que nous allons souhaiter bientôt, 1814, au mois d'avril. Et qui a été gagné, je rappelle, qui a été gagné. Cette implantation en ville, c'était dans un couvent. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la place, parce qu'il y avait l'eau à côté du Bazac, et il y avait la chute d'eau du Bazac, et donc tout ce qu'il fallait pour faire marcher des presses. Ils ont acheté le polygone de tir qui se trouve sur le site actuel dit de la cartoucherie, qui est en pleine transformation, et qui a été acheté en 1802. Sur ce polygone, il s'agissait d'essayer les projectiles qui étaient produits à l'arsenal. Tout simplement, c'est une installation simple. Tout le 19e siècle, ils n'ont pas cessé de produire des boulets et des canons et des obus, des boulets et des obus, jusqu'à l'apparition de la cartouche Lebel. C'est pour cela que sur le site actuel qui se trouve sous l'école de Purpan, on retrouve en creusant, puisque c'était le réceptacle des chantiers, on trouve des obus de cette taille, de 105, avec des guides en plomb, parce qu'à l'époque, il y avait des guides en plomb pour essayer de les faire tourner, c'était pas trop évident. 12 000 employés en 1918, 11 500 femmes. Vous imaginez les pauvres hommes qui étaient présents, comme ils pouvaient avoir des relations complexes. J'ai travaillé dans ma toute jeunesse professionnelle dans cet établissement et j'ai l'avantage de diriger quelques ateliers qui étaient essentiellement peuplés de personnel féminin avec un encadrement masculin. Je puis vous dire que c'est une excellente formation pour un jeune ingénieur, ce genre de choses-là, parce qu'on en voit de toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Mais il y a beaucoup de choses que je pourrais raconter, mais ce sera simplement en privé. Cet établissement est donc installé en haut dans l'arsenal. Il a été abandonné simplement à la fin des années 80 pour la transformation de l'université. Et vous voyez l'implantation sur le site de la poudrerie, sur le site du polygone, dans lequel vous avez les établissements, les principaux ateliers. C'est des immenses ateliers. La production, c'était ces cartouches de Lebel, un projectile de 13,5 grammes, c'est une vitesse initiale pas très importante, 650 mètres secondes, c'est déjà un terme considérable, ça faisait quand même 2000 joules. 2000 joules, ça, comme énergie cinétique à la bouche, c'est quand même intéressant, important. Vous voulez comparer avec le projectile actuel utilisé dans les fusils modernes d'assaut comme le FAMAS, le projectile ne pèse que 3,5 grammes, donc on a divisé le poids par un coefficient en important, 5-6, et on a accru la vitesse initiale jusqu'à presque 1000 mètres secondes, 980 mètres par seconde, ce qui a compensé, et donc l'énergie cinétique est un peu moindre. Mais bien évidemment, le freinage sur trajectoire est bien moindre vu la dimension, le changement de calibre, puisqu'on est passé de 13 mm 5 à 5 mm 5. Donc le freinage sur trajectoire, la perte sur trajectoire est bien plus faible, et donc l'énergie est préservée. Mais le pouvoir vulnérant n'est pas diminué. Je ne vais pas vous parler du pouvoir vulnérant, c'est un des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé, effectivement, mais tout le monde savait à l'époque que ce projectile était un projectile qui n'était pas très efficace parce que il ne cédait pas la totalité de son énergie à la cible. J'entends la cible, c'est à la cible humaine, bien évidemment. Même protégé d'un simple vêtement, je ne parle pas de protection par un gilet pare-balles. Et que, effectivement, comme il ne cède pas la totalité de son énergie, il ressort de la cellule humaine avec encore une certaine énergie, il y a des choses perdues, il y a de l'énergie perdue, ce qui explique objectivement que l'on a diminué l'énergie cinétique de ces projectiles et des cartouches. Et nous avons obtenu un avantage considérable, c'est le meilleur efficacité de la précision de la probabilité d'atteinte, puisque l'impact sur le tireur est moindre par la quantité de mouvement du fusil, et donc le tir est plus efficace, ce qui permet le tir en cadence rapide, c'est le cas du FAMAS. Et vous voyez tous à la télévision des espèces de gars qui tirent avec des kalachnikovs qui sont des armes qui sont impossibles à tenir. Il faut avoir là je fais une digression, mais il faut avoir une très grande expérience de tir avec les kalachnikovs compte tenu de la configuration de l'arme et du couple de rotation qu'elle impose à l'épaule du tireur qui fait que ces tireurs qui ont une certaine efficacité que l'on voit dans les actes terroristes actuellement, il faut qu'ils aient été particulièrement bien entraînés pour être efficaces, alors que nos soldats équipés de notre fusil FAMAS avec une cartouche beaucoup moins puissante a la même efficacité terminale et une plus grande précision. Je dis que, mais ça c'est un problème d'éthique et de responsabilité, quand on fait la guerre, on est là pour mettre les hommes en face hors de combat, De temps en temps, on les tue, mais je pense qu'il faut. On est obligé, malheureusement, d'en arriver là, et donc il faut se poser la question, dans les meilleures conditions, bien sûr, d'humanité. Mais c'est un autre sujet, j'en reparlerai, parce que c'est un sujet qui me passionne, une autre fois. Vous voyez la photo de l'arsenal, ici, qui reste encore, c'était l'ancien couvent des Chartreux. Et sur cette photo ici, vous voyez la venue de Grande-Bretagne et les ateliers. Et ici, vous avez en bas la zone de réceptacle des tirs où il y a actuellement un jardin sous l'école du Purpan. Et dans cette zone-là étaient les ateliers de pyrotechnie où étaient stockées les poudres venant de la poudrerie et confectionner les cartouches avant d'être expédiées. C'est là où est implanté actuellement le Zénith. À Castres, il y avait une brigade d'artillerie. Il faut savoir que les artilleurs étaient à la fois opérationnels sur le terrain et un peu ingénieurs, et beaucoup ingénieurs, parce qu'ils avaient beaucoup besoin de techniques pour entretenir et assurer une bonne maintenance des armes. Donc, ils avaient aussi besoin de confectionner les ou à terminer les munitions sur le champ de bataille, parce qu'un certain nombre de munitions n'étaient pas livrées, complètement assemblées, pour des raisons de sécurité. Donc, il y avait un certain nombre de choses à tard, notamment un parc d'artillerie pour stocker des munitions, des portes de canons, des canons de rechange, etc. Et à partir de ces moyens, Castres étant situé sur une voie ferrée qui allait du nord au sud, de Carmaux, Albi, Castres, Cassonne, ou Castelnaudary, hein, et une voie est-ouest lui permettait d'être approvisionné de assez facilement, plus la petite voie de chemin de fer qui va à Murat, mais je crois qu'elle ne devait pas servir à grand-chose sur le plan stratégique, sauf peut-être à transporter des champignons ou des jambons. De la cône. Il y avait aussi à Castres beaucoup de petites industries mécaniques et textiles. Il a fallu effectivement créer un atelier de chargement. Il a été décidé de créer un atelier de chargement, c'est-à-dire de remplissage des munitions en explosifs. Et Castres a été spécialisé dans les obus de mortier de chantier, de tranchées, pardonnez-moi. Un obus, vous voyez, un obus ici, deux mortiers de tranchées, c'est un corps métallique qui a des ailettes puisqu'il ne tourne pas, il va être lancé à partir d'un petit tube. Et à l'intérieur est l'explosif et une mise à feu avec une fusée en percussion et un relais de poudre noire ici qui est destiné à mettre à feu l'explosif. L'explosif, ce n'est pas de la mélinite comme dans les obus de 75, qui est un explosif solide, stable physiquement, s'entend, c'est-à-dire un agglomérat qui a des caractéristiques mécaniques, parce que dans l'obus de 75, les accélérations sont importantes, dans le cas de l'obus de mortier, les accélérations sont moindres, et on a utilisé le perchlorate d'ammonium, qui est un explosif fort tout aussi sympathique sur le plan de la balistique, bien sûr, mais par contre il est particulièrement instable. Il est instable et il est sensible au frottement. Et donc vous mettez ce genre, cet explosif sous forme de granules tout simplement dans une boîte, vous la secouez, elle vous saute à la figure, bien évidemment. Donc il fallait prendre un certain nombre de précautions. Mais il n'était pas cher. Donc le perchlorate était fabriqué essentiellement dans une usine qui se trouvait à Chède, en Savoie. C'est pour ça qu'on a appelé ça aussi quelquefois la chédite. L'obus fabriqué dans les usines mécaniques, je pense à Citroën bien sûr, mais aussi beaucoup à dans la région de Saint-Stéphanoise, est enveloppé et peint, mais à l'intérieur, on y dépose une couche de braie de façon à servir de colle et de liant entre les grains de perchlorate et l'acier, pour qu'il n'y ait pas de frottement au départ du coup. Et ensuite, l'on ferme avec précaution l'ensemble, et on les transporte bien droit jusqu'au champ de bataille, où on va ajouter les fusées. Parce que Parce que il faut pas trop les renverser. Si vous les renversez, vous risquez de renverser du perchlorate sur le sol, et ça c'est un peu gênant parce qu'il va pas aimer. Pour vous donner une idée de aujourd'hui, ces techniques sont totalement disparues. Dans les obus de ce calibre-là, dans les projectiles de ce calibre-là, on utilise des explosifs beaucoup plus compressibles. Je pense à l'exhal, qui est un mélange d'hydrogène et d'aluminium, et que l'on presse bien, que l'on met bien en forme à la presse, et qui est, comment dirais-je, et qui résiste très bien aux 100 000 G de l'accélération du canon. Donc voilà le travail de Casse. 22 femmes et 206 hommes produisent 70 000 bombes par jour. Ou par mois, pardon. C'est écrit. Les charges propulsives. Pour charger je fais confiance à ce qui est écrit. Pour charger les charges propulsives, donc il s'agit de ces bandelettes dont je vous parlais tout à l'heure. Il faut les mettre dans un sac et ensuite de l'introduire au fond du tube du mortier et on va ensuite introduire le mortier, l'obus de mortier par-dessus. Donc il faut des couturières pour fabriquer ces petits sacs qui sont faits en amiantine, qu'une toile de soie. Et à Castres, il y avait heureusement beaucoup d'industries de textiles pour cela. Et bien évidemment, beaucoup de main-d'œuvre fine qui sait faire manipuler ça. On savait faire aussi des douilles chargées, métalliques, pour les mortiers de plus gros calibre, dans lesquels on a donc un conteneur métallique qui ne veut pas subir une très grande pression, heureusement, avec la poudre qui est distribuée à l'intérieur, et puis un certain nombre de bouchons pour assurer l'étanchéité par rapport ou des relais qu'on peut rajouter ou enlever suivant la distance à laquelle on veut le lancer, et on a ainsi le système propulsif. Donc on fait 8 personnes, 1000 gargousses en 10 heures de travail. Les heures horaires de travail, c'était 9-10 heures, c'était pas les 35 heures d'aujourd'hui. Bon, donc beaucoup de femmes, beaucoup de militaires détachés et beaucoup d'immigrés. Une mission diplomatique est allée en Chine et a ramené 10 000 Chinois pour travailler dans les usines européennes. Le contrat avec le gouvernement chinois était de 50 000 hommes. Et on n'est jamais arrivé à amener 50 000 hommes, mais il y a eu des Grecs qui sont venus travailler. C'était le cas à Castres parce qu'ils ont été particulièrement revendicatifs. Et vous voyez que ils ont fait une grève au mois d'octobre, et le 17 octobre, le directeur a dit « Hop, vous reprenez le train, vous revenez à Marseille. » Il y a eu beaucoup d'anamites, on les appelait les anamites à l'époque, mais c'était des Chinois. Dans un certain nombre de sites, je pense à Roanne, il y a tout un quartier de Chinois où il y avait 2000 Chinois qui ont travaillé à l'édification de la nationale, et non pas à construire. Il y a eu, à Castres, le malheur a frappé cet établissement le 18 juillet 1918. C'était pas trop loin de la future armistice, mais il y a eu une prise de feu lors des déchargements de fûts de perchlorate, évidemment, qui ne devait pas être totalement étanche, et donc le perchlorate est répandu sur le sol et a pris feu. Et il a mis feu à l'ensemble du stock, 500 000, j'ai vérifié N fois ce chiffre, 500 000 bombes ont explosé par cet incendie. Mais comme la propulsion de l'incendie a été relativement lente et les services de secours sont intervenus rapidement, il n'y a eu que 4 décès. Mais par contre, le quartier a été dévasté intégralement. Le travail a repris peu de temps avant l'armistice, mais bien évidemment, après, l'établissement a été fermé. Il a été vendu, et ça se trouve dans le quartier, c'est pour ceux qui connaissent Castres, dans l'ancien quartier de Milou, qui se trouve avant, à peu près à l'ouest de Castres, en arrivant par la route de Toulouse, avant d'arriver à la gare, et au sud de la gare actuelle. Pour continuer, dans notre région, Pamiers, bien évidemment, et l'Ariège, a contribué beaucoup à l'effort de guerre. La ville de Pamiers avait 11 000 habitants en 1914, j'ai trouvé dans la littérature, et l'usine FI a utilisé 3 500 salariés. Vous voyez la part considérable de personnel qui a été importé à la ville de Pamiers à ce moment-là. Et certains à Pamiers ont dit récemment qu'effectivement, ça avait été une transformation, je dirais, sociale importante. Il y avait aussi d'autres usines qui appartenaient aux Assyriens Phi, qui étaient les hauts fourneaux de Tarascon. Je voulais être exhaustif en récupérant les noms des autres usines qui ont servi en la région apaméenne. Tarbes. Alors Tarbes, comme je vous dis tout à l'heure, avait été donc installé pour faire une fonderie de canons. Il a été construit une fonderie de canons dans laquelle on a installé des forges. Et pas de fonderie de canons proprement dite, mais ils ont construit, assemblé des canons. Je cherche la diapositive. Voilà. Le créateur de l'arsenal de Tarbes, c'était le colonel de Réfi, et ce colonel de Réfi avait eu une idée extraordinaire, c'était que de construire le canon à balles, le canon que vous voyez sur le dessin, à droite, c'est la statue du colonel de Réfi qui est dans la ville de Tarbes, puisque les Tarbais le considèrent comme un bienfaiteur de la ville de Tarbes, puisque cet arsenal a existé jusqu'à il y a peu de temps encore, puisqu'il a été, il n'est pas encore totalement fermé, il y a encore quelques personnes qui font un peu de pyrotechnie dans cet établissement, pas sous forme arsenale. Actuellement, ils appartiennent à la société Next. Le colonel de Réfi a développé un canon à balles. Pourquoi le canon à balles? Parce que, avant l'apparition de la mitrailleuse, sur le champ de bataille, imaginez les batailles napoléoniennes, la cavalerie d'un côté, les fantassins qui avancent, les carrés de fantassins et les artilleurs qui bombardent les carrés de fantassins adverses. Qu'est-ce qui est utile pour arrêter une charge de cavalerie ou voire arrêter une charge de fantassins? Eh bien, lancer des projectiles en quantité suffisante, mais avec assez de précision pour arrêter l'avancée des troupes, de la troupe adverse. Eh bien, l'idée avait été développée, que ce soit en Allemagne, que ce soit en France, en Prusse, ou en France, je préfère employer le terme de Prusse, le canon à balles, c'est-à-dire un assemblage de 37 tubes de 13 mm de diamètre, c'est pas des petits canons qui sont assemblés ensemble avec un ensemble de culasses d'ouverture pour les charger unique. On introduit les projectiles, on introduit une charge propulsive, on ferme tout ça comme un canon et on bazarde les 37 projectiles identiques avec une bonne stabilité procurée par un affût bien immobile et non pas un tireur étrier à l'épaule. Et à ce moment-là, on a une bonne efficacité jusqu'à une distance de l'ordre de 2000 mètres, alors qu'avec les mitrailleuses, on avait des insuffisances de précision. Il y avait des combats, des compétitions. Malheureusement, les canons à balles ont perdu au profit des mitrailleuses dont je vous parlais tout à l'heure, la mitrailleuse Gatling, qui était construite, bien sûr, à Saint-Étienne, et la mitrailleuse Schiss, qui a été fabriquée aussi à Saint-Étienne. Tarbes, donc l'établissement, n'a pas fabriqué le canon correspondant, mais par contre, il a été, je regarde si je suis dans les délais, oui, il a été affecté des fabrications de canons de 75, le canon de 75 qui avait été dessiné par, je vous rappelle, le colonel Saint-Aiglaire de Ville à l'arsenal de Puteaux, était produit à Bourges et à Tarbes en grande quantité. Vous allez voir les chiffres tout à l'heure, et bien évidemment, il a fabriqué beaucoup de munitions de petits calibres, des obus de gros calibres dans les forges qui avaient été installées pour faire les canons. Il y avait aussi dans notre région des industries mécaniques qui ont été toutes mobilisées. Je cite là les principales industries qui sont connues et qui, dans certaines, existent encore. Je ne sais pas si les ateliers de Languedoc du Grand Rhin existent encore. Je crois que la zone a été totalement, urbanisée, et Polyfrère aussi, rue Boulbonne. Par contre, Deschaumont Amuré existe toujours, et je connais M. Deschaumont qui fait des fonderies, et notamment des fonderies à usage urbain pour la récupération des eaux usées et autres objets. Dans la région de Castres, on connaît le nom d'un certain nombre d'entreprises qui étaient des forgerons, des fabrications de machines agricoles essentiellement, qui se sont transformées, bien évidemment, à Toulouse. Le rapport du contrôleur général René Hibert a bien dit, Toulouse, il y a beaucoup d'activités dans le domaine du textile, et on a utilisé, bien sûr, pour habiller les soldats, du textile, fabrication de couvertures, beaucoup de manches de pelle, parce que pour creuser les tranchées, il fallait utiliser des pelles et des pioches, bien évidemment, des semelles de chaussures, des caisses à munitions, et je n'oublie pas, bien sûr, les besoins en énergie de Carmaux et de Decazeville. Voilà une photo qui est assez significative de cet immense effort. Ça, c'est les trains qui alimentent Verdun, les dépôts de munitions alimentent dans Verdun, je pense, près de ce qu'on appelle la voie sacrée. Et c'est, je pense, assez significatif pour vous montrer tout ce travail qui a été fait. Mais il y a eu quand même des inventions. Et il y a eu des inventions et des apparitions d'armes nouvelles. Il y a eu un grand inventeur qui était le général Etienne, qui avait, paraît-il, un caillou de cabochard et qui n'avait que des bonnes idées et personne ne voulait le suivre. Malheureusement, il avait de bonnes idées. Il a eu deux grandes idées. Le char. Pourquoi le char? Parce que le char va passer par-dessus les tranchées et écraser les barbelés, premièrement. Deuxièmement, il a eu une autre idée, c'est que comme c'était un artilleur, eh ben, l'avion va l'aider à voir ce qui se passe au loin, et donc aider à guider le tir des canons. Vous savez, ceux qui ont été artilleurs savent qu'on tire un coup qui est plus sur une cible, il est long ou il est court. Et là, un observateur qui annonce long, court, etc., on recule, et puis au bout d'un certain temps, on arrive au but. Mais quelquefois, on met deux, trois coups. Et il faut bien le voir, donc il faut avoir quelqu'un qui est assez près de la cible ou de l'objectif pour bien guider le canon. Eh bien, il a eu l'idée d'utiliser les premiers avions, et bien sûr, il s'est fait tirer dessus par les états-majors, ça n'a pas été appliqué rapidement. Aujourd'hui, je puis vous garantir, on fait le coup, tir au but du premier coup. Et ça fait maintenant 30 ans qu'on fait coup au but du premier coup à 40 km. Je reviens sur le sujet. Donc, lui, il s'est appliqué au char. Alors, il a conçu deux types de chars. En haut à droite, le char lourd, porteur de canon, que vous voyez en haut, c'est un Saint-Chamond. Et en bas, le char léger de Renault. Pourquoi? Parce que l'idée, c'était de traverser donc la tranchée et de porter le canon de 75 au plus près des soldats ennemis et sur la tranchée si possible. C'est un concept tactique qui a été malheureusement utilisé en 1940, et vous savez avec quel désastre sur le plan des effets militaires, puisqu'en face ils avaient imaginé d'utiliser le char vraiment différemment et ils ont gagné. Et ils ont gagné et parce que effectivement c'était le concept. Le concept de 1914 n'était pas valable, bien évidemment, dans une guerre de mouvement, alors que là, nous étions dans une guerre de tranchées. Nous avons réussi à construire, les Français, 3473, j'ai trouvé l'un des chars. Les Anglais ont construit 2750 chars à partir du 1917 et début 18. Et c'est vraiment les chars qui ont fait le break, qui a permis aux armées de gagner Verdun et de gagner l'armistice. Les Allemands avaient construit un certain nombre de chars, ils n'ont pas su les utiliser avec la même efficacité, et je n'ai pas résisté à vous afficher l'ordre du jour du général Pétain au mois de juillet 1918, dans lequel il n'a pas oublié, c'est pour ça que je l'ai pris, bien sûr, les soldats, mais il a les ouvriers d'usine, les ouvriers du front, ceux qui étaient près des utilisateurs, pour faire l'entretien des matériels, et Dieu sait si c'était important. Le char, après, est arrivé à la même époque, l'aviation. Le créateur de l'aviation militaire, c'est le général Eschauer, qui est un sapeur. C'est un, je dirais, rien ne l'est désigné, mais c'est comme cela. Il a été l'initiateur. Il y a un grand nom qu'il faut citer, bien évidemment, c'est Clément Rother, qui a été l'inventeur d'un certain nombre de machines, et surtout de l'emploi des machines aéronautiques. Et le premier ministre qui a été chargé, un homme qui a été désigné secrétaire d'État à l'aviation, René Bernard, qui était un ministre du gouvernement Clemenceau en 1915, et qui s'est occupé de développer la production d'aviation. Vous voyez comment les usines, ça c'est la photo du ministre que j'ai trouvé, et par contre vous avez là un atelier où vous voyez la production des avions. C'était de l'ébénisterie, de la menuiserie fine, puisqu'il s'agissait de fabriquer avec des bois, des carcasses sur lesquelles on va poser des toiles, etc. Donc c'est les débuts de l'aviation. Et bien évidemment, en tant que Toulousain, il faut citer Latécoère. Latécoère n'était pas Toulousain puisqu'il était bagnéré et il avait fait l'école centrale et il avait été en charge de son usine paternelle qui fabriquait des voitures à chevaux. Donc comme l'image que vous pourrez présenter tout à l'heure, c'est-à-dire de la menuiserie ou de l'ébénisterie. Mais il s'était mis, parce qu'il y avait des besoins, il s'est mis à faire des wagons de chemin de fer. Pourquoi? Parce que le besoin de la guerre de 14 était, en matière de transport, était énorme, colossal, de transporter des munitions, de transporter des soldats. Donc il a pris, comme beaucoup d'autres, des commandes de matériel roulant. Il a donc pensé que de rester à Bagnères, il ne gagnerait pas assez d'argent, donc il est venu s'installer ici à Toulouse. Il a construit une usine au Pont des Moiselles pour faire 10 000 wagons de chemin de fer pour la compagnie des chemins de midi. Et puis, comme le ministère poussait à la production de canons, d'obus, eh bien, il a dit, moi aussi, je vais faire des obus. Et il a installé une usine un petit peu plus loin, le long de la voie de chemin de fer, pour faire des obus de 75. Et il s'est mis à faire des obus de 75. Avant Berthe-Bigorre, il avait laissé les cuisines roulantes. Et puis, là aussi, il a fallu fabriquer des avions. Il y avait un modèle qui avait été défini et qu'on appelle le Salson. Et un appel d'offres a été lancé. Et il a dit, je vais faire des avions, parce que je sais faire la menuiserie aussi, pour la même raison. Et il a pris une commande de 1000 avions. En 1917, il a créé à Montauban une usine, toujours le long d'un voie de chemin de fer pour pouvoir avoir l'alimentation en matériel et l'évacuation, un terrain d'aviation, et le 5 mai 18, il a sorti le premier avion, il en a fabriqué 6 par jour, donc 800 jusqu'à l'armistice. Vous avez là une photo de des archives de Latécoère, dont on parlera plus tard. D'ailleurs, une autre photo interne de la maison de Latécoère où vous voyez les ouvriers qui fabriquent les éléments, les plans et bien évidemment l'assemblage de l'avion. Je ne vais pas m'attarder, cette photo n'est pas très belle. Je n'ai pas réussi à piquer sur la fondation Latécoère une photo plus précise parce qu'ils l'ont floutée. Ils l'ont floutée. On voit sur ces photos la voie de chemin de fer, le terrain d'aviation, etc. À ce sujet, je vais vous indiquer que à la fin de l'année, j'organiserai avec le IHDN à la fin de cette année et l'IHDN parisien une demi-journée où nous ferons que nous avons baptisé l'éveil de l'aviation en France. Ou de l'aéronautique en France à partir de la guerre de 14, avec un certain nombre de professeurs d'histoire parisiens qui savent beaucoup de choses, puis ils vont parler de l'ensemble du système national, et un professeur de professeur d'histoire de notre université Jules Verne qui s'appelle Nicolas, j'ai oublié le reste de son nom, qui nous parlera plus particulièrement de Latécoère. Nous annoncerai cela en temps voulu. C'est un colloque que nous organisons avec l'ISAE, bien évidemment, et l'IHDN. C'était une petite coupe transitoire, je vous dirais un bon. Tout ça, c'est des matériels, mais qu'est-ce qui derrière tout ça? Voilà, il y a une quantité considérable d'hommes. C'est ça qui est extraordinaire, c'est fabuleux. En 1914, il y avait 50 000 hommes dans les usines d'armement, qu'elles soient privées ou publiques. 1 600 000 en 1918. Vous imaginez là, même s'il y a eu une majorité de femmes, tout ce qui a été prélevé sur le front au détriment des unités combattantes. Et donc les problèmes que ça a entraîné. Il y avait les spécialistes, bien sûr. Il y avait des ouvriers qui étaient sous statut militaire, soldats, détachés des armées, qui revenaient à leur régiment quand ils avaient plus de travail, et il y avait beaucoup d'inaptes au service. Et puis il y a aussi un certain nombre de gens qui étaient affectés spéciaux, entre guillemets, ce qui veut dire qu'ils étaient soutenus par quelques personnalités qui les envoyaient loin du front. Mais comme je vous dis tout à l'heure, le risque loin du front était plus important, au moins aussi important que le risque au front, le risque de perdre sa vie, bien sûr. Et je n'ai pas résisté à vous sortir ce petit document, cette affiche qui a été présentée tout à fait au début de 1914. C'est pour faire plaisir à ces dames, mais je pense que les messieurs sont intéressés pour voir comment le gouvernement à l'époque faisait sa communication pour dire on a besoin des femmes. Alors là, il a dit pour remplacer les hommes qui sont partis faire la guerre courte, c'était en 1914, mais ensuite elles sont restées dans les usines et dans les champs pour nourrir la population. Voilà le travail des femmes. Je n'ai pas résisté à vous montrer la photo de droite, c'est dans une usine anglaise, et je trouve que, surtout parce que je trouvais que l'attitude, le visage de la dame était particulièrement positif. Que les autres étaient à froid appliqués, mais je crois qu'elles étaient aussi ravies d'être prises en photo.
C'est un canon.
On a beaucoup utilisé des étrangers, je vous rappelle tout à l'heure, des Chinois, des Annamites, beaucoup de Nord-Africains et beaucoup de prisonniers. Des camps prisonniers ont été utilisés. Je vais vous parler de la construction de l'arsenal de Rouen. Les 24 hectares d'ateliers ont été construits avec 10 000 personnes, dont 2 000 Annamites. Et je crois qu'il y avait aussi 1500 Nord-Africains pour lesquels on a construit une mosquée, bien évidemment. Voilà. Le bilan est fabuleux. C'est la dernière. Et le bilan est fabuleux. 6 milliards de cartouches de fusils Lebel. 300 000 obus. 2 millions de fusils. 300 millions d'obus, oui, tout à fait. 52 avions, c'est plus que l'on a fait la décoère. 92 000 moteurs. Je ne me suis pas intéressé à chiffrer combien ça a coûté en francs de l'époque, mais je pense que c'était colossal. Ça explique en grande partie, bien évidemment, ce que nous avons demandé. Alors, en conclusion, je dirais que Mars a soutenu par Athéna, Vulcain surtout, bien sûr, c'est le meilleur, et Athéna, la déesse, ou Minerve, la déesse de la sagesse, ont amené l'ennemi à Rotonde. Et je citerai le général Georgelin, qui était le précédent chef d'état-major des armées françaises, qui a dit, l'objectif, et j'y tiens, l'objectif ultime de l'action militaire n'est pas et d'amener l'adversaire à modifier ses objectifs, et aller à la table de négociation, et pas de le détruire. Et malheureusement, alors c'est, comme il y a l'exposition Velázquez qui vient de s'ouvrir au Grand Palais aujourd'hui, je crois, j'ai trouvé cette peinture de Velázquez, où le dieu Mars vient, c'est pas le dieu Mars, c'est Cupidon, Apollon, qui vient annoncer à Vulcain que sa femme l'a trompé avec Mars. Mais Vulcain s'est vengé parce que la guerre froide, j'ai l'habitude de dire, a été gagnée par Vulcain, aidé de Hermès, et aidé du dieu du commerce, parce que nous n'avons pas eu Nous n'avons pas eu de combat pendant la guerre froide, même s'il a été gagné en 1989-90. Voilà ma conclusion. Renoir,
oui. Qui était la même, et toujours d'ailleurs, la même formule que les Chinois avant le siècle, il y a très longtemps. Et les moines se sont faits, on a poussé le moulin à poudre, qui est allé là où vous avez montré la photo d'ailleurs, où se trouvaient les logements des ingénieurs de la poudrerie, c'est-à-dire dans le rami de la cité universitaire. Et là aussi, ça a explosé un peu. Alors on l'a poussé. Donc c'est la ville qui est arrivée. C'est d'ailleurs ce que c'est pour Adelaide. Mais pas Adelaide qui s'est construit à côté de la ville. C'est la ville qui s'est rapprochée d'Adelaide. Donc ils se sont installés à cet endroit où on est, où nous sommes actuellement. Alors actuellement, on y travaille, on ne fait plus du tout de poudre noire, mais du coup, on n'est pas sérieux. Mais il y a deux produits qui sont faits. La diéthylhydrazine dissymétrique qui est utilisée pour les missiles et pour la
variable
également. Et puis le perchlorate d'ammonium. C'est le seul endroit en France où on fait du perchlorate d'ammonium maintenant. Alors c'est un produit qui est utilisé pour Ariel, mais qui est aussi utilisé pour les airbags. Les gros airbags fonctionnent au nitrate d'ammonium, perchlorate d'ammonium pour la fabrique là. Alors ce perchlorate d'ammonium pose actuellement un problème parce que c'est un perturbateur endocrinien très fort. Il agit au niveau de la thyroïde. Et donc il provoque beaucoup de troubles. Donc il y a une surveillance de la Garonne. Qu'il y a chaque jour une petite quantité de perchlorate d'ammonium qui tombe dans la Garonne, mais rassurez-vous, c'est toujours au-dessous du taux qui est utilisé. Donc il n'y a pas d'accord de limite, hein, c'est un taux qui est fixé, mais il n'y a rien de fixé. Par contre, on a été très surpris de trouver loin de la France, alors on ne fabrique pas de perchlorate d'ammonium, les eaux souterraines sont absolument polluées de perchlorate d'ammonium. C'est tout simplement parce que quand la guerre 14-18 s'est terminée, il a fallu vider les obus qui et qui était ouvert sur la Garonne, et donc on les a visés sur ce site-là. Donc on retrouve maintenant le Nord-Pas-de-Calais, c'est l'endroit où la plus forte pollution opérera dans le monde lié à la guerre 14-18. Alors un dernier point, les poudreries que Louis XIV avait mis en place, il y en avait une à Grenelle, donc qui a travaillé jusqu'à la fin du 18e siècle, même après, et en 1794, cette poudrerie de Grenelle a explosé. Ça a été le premier drame chimique en France. Il y avait 2000 employés, il y a eu 1000 morts. Et donc, c'était une grosse catastrophe qui a été faite en 1794 dans la Grenelle. La poudrerie de Grenelle a explosé, donc 1000 morts. C'était dramatique. Voilà, c'est les seules choses que
je voulais dire. C'est intéressant. Et vous savez comment on fabriquait la poudre noire?
Je veux parler des chars. Ah, je vais juste faire une petite correction. René Bénard a été ministre de l'Iliadisme.
Oui. Peut-être avant, ah, derrière moi, ça, je ça. Avant d'être ministre de l'Aviation.
Il a été ministre du choc, et il a été ministre du l'Aviation. C'est sur les chars que je voulais revenir. C'est vrai que la France a des armées qui sont très importantes pour gagner la guerre, mais quand les Américains sont venus nous aider, ça a été quand même fort important. Je suis persuadé que si les Américains n'étaient pas venus, ils n'auraient peut-être pas eu le même résultat. Bon, ceci posé qu'il y avait des chars, j'étais surpris qu'il y ait autant de chars là-bas. Oui. Il y a eu des chars américains aussi.
Peu.
Les chars jouent aussi au Maroc.
J'ai trouvé un chiffre.
C'est un char allemand.
Oui, mais c'est un chiffre que j'ai trouvé dans la littérature des archives.
J'avais compris. En 18, les Allemands avaient été battus parce qu'ils avaient une pratique de droit de chasse, et qu'au contraire, en 40, ils avaient bien compris que nous, on n'avait pas évolué.
Ben, nous avions plus de chars que les Américains. Que les tout à fait. Je reviendrai sur les chars. Je voulais pas allonger mon texte et aborder le problème des chars parce que ça mérite une étude beaucoup plus complète, que ce soit, je dirais, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. J'ai voulu simplement donner un flash sur le fait que le char est apparu en 1917 essentiellement et a été un élément fondamental de la victoire. Et c'était Foch qui en a été quand même le grand promoteur, même si le général Étienne a été créateur, je suis bien d'accord. Alors, je reviendrai sur la poudre noire. Vous ne savez pas comment a été fabriquée la vous savez tous à partir de quoi est fabriquée la poudre noire. On avait appris ça à l'école. Mais le grand secret de la poudre noire en France venait de ce que, pour faire ce fameux coton en poudre, il faut du coton égyptien ou des fibres d'un arbuste qui ne pousse qu'à un endroit en France, dans les marais, des marais qui se trouvent à côté de Dijon, dont j'ai oublié le nom, et où il y a toujours une poudrerie, il y a eu une poudrerie, où on cueillait des arbustes de la taille de mon petit doigt pour les transformer en charbon de bois, et récupérer cette poudre de carbone particulièrement fine. Et la poudrerie de Pont-de-Buis, qui a explosé beaucoup plus récemment, a eu ses amis à cause de cela, parce qu'il y en avait un peu de cette poudre noire. Et sur cette poudrerie, aujourd'hui, vous avez un grand établissement bien, très important pour la défense, aujourd'hui, c'est l'établissement qui fabrique le uranium nucléaire des armes, c'est-à-dire enrichi à 97% en uranium 125.
Bon, des questions courtes, des réponses courtes.
Des réponses courtes.
Ma question ne porte pas sur une arme, mais sur une protection, casque. En 1914, la mobilisation, personne ne porte le casque.
Ouais.
Un an après, tout le monde porte le casque.
Ouais.
Qui n'a pas vécu?
Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un sujet intéressant. Je pense que c'est des fabrications. Enfin, je pense que ça relevait pas de la grande métallurgie, et donc ça a été énormément réparti en France. Je connais le fabricant de casques actuel, qui c'est une entreprise qui se trouve à Rouen, dans la banlieue de Rouennaise, et qui fabrique aussi beaucoup des casques moto aussi, des choses de ce genre-là. C'est un peu son grand domaine. Il a été mon concurrent à une époque où j'étais directeur de l'arsenal de Rennes, où on a fabriqué aussi des casques en acier. Et j'ai oublié le nom, quand je l'aurai retrouvé, je vous le dirai. Mais effectivement, il y a encore un fabricant de casques en France, effectivement, des casques militaires.
Je ne vais pas parler de chimie. À la poudrerie, vous avez marqué qu'il y avait beaucoup de femmes, mais c'était surtout après 1916-1917. Oui. Moi, j'avais mon grand-père, il était sur le front, et il n'y a pas eu que des planqués qui sont revenus à la poudrerie. Il avait perdu deux frères, et il était le troisième, et le seul survivant. Et donc, on les avait remis dans des trucs non combattants, et il était à la poudrerie. Il est resté à la poudrerie en 1916, et début 17, il y a eu tellement de morts, on a remplacé tous les gens à la poudrerie par des femmes, et on les a envoyés sur le front. Ce qui était ne pas tenir l'engagement qu'on leur avait fait de ne pas être combattants. Et c'est comme ça qu'on les a appelés les régiments du Midi, parce qu'ils venaient du Midi, mais ils n'étaient pas composés que de militaires du Midi. Ils venaient du Midi. Et quand ils se sont retrouvés à Verdun, parce qu'ils se sont retrouvés à Verdun, ils se sont mutinés. Et c'est là, qu'on les a décimés, et c'est là qu'on les a fait passer pour des planqués, parce qu'on est allé dire à ceux qui étaient dans les tranchées, ils attendaient la relève. On leur a dit, la relève, elle est là, ils ne veulent pas se battre. Alors, ils sont sortis des tranchées, ils les ont décimés, et c'est comme ça qu'on a fait une très mauvaise publicité à ceux qui... Bon, alors, j'en reparle que pour ça, parce que je dis, il y avait aussi des pauvres types qui étaient là, parce qu'ils étaient les seuls survivants de... Ouais.
Bon. Et parmi les pauvres types, il y avait mon grand-père, qui a servi aussi, et ma grand-mère m'a dit, il était à la poudrerie parce qu'il était faible de constitution, et il était père de deux enfants.
Je termine par deux questions. Vous n'avez pas vu ce
que vous juste le casque, c'était le fameux casque Adrian.
Voilà, Adrian.
Qui a été créé en 1915 à peu près. Construit à des. Fabriqué à des centaines de milliers d'exemplaires. Et ensuite, d'abord, je voulais remercier d'avoir mis des images des archives municipales, notamment en un très bel album sur le travail de la poudrerie et les femmes. Travail à la poudrerie. Par contre, vous n'auriez plus nous demander une photo des usines de la Fécouère et de Montauban parce qu'on a une meilleure qualité que celle de.
Je le réserve pour le professeur Olivier.
D'accord. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour ça.
La question pour terminer, tout à fait négative. Vous avez cité dans les innovations le point touché. Ça ne paraît pas une innovation, ça veut dire pourquoi à ce moment-là il faudrait arriver à tirer touché.
Parce que si vous regardez les campagnes napoléoniennes, etc., il faut charger le canon par la gueule. Donc vous posez le canon vertical et puis vous êtes debout face. Alors il y avait la tactique, ça consistait à avoir un soldat qui avait un fusil chargé qui était à genoux pour tirer sur les adversaires, et derrière lui un soldat debout qui chargeait le suivant. Alors une fois c'était celui qui était debout qui risquait plus. Et quand on est vu au tir couché, ben chacun avait son fusil pour soi, donc il avait moins de visibilité, il était moins visible de l'ennemi, tout simplement. Tout à fait.
La deuxième question, j'avais l'impression de l'avoir appris que beaucoup d'anciens militaires espagnols, qui s'appelaient Arthur Brunet, qui évoquaient toujours la poudrerie de Saint-Médard-en-Jalles.
Oui.
Et alors, il évoquait sur un plan un peu plus presque grillard, les vapeurs aphrodisiaques qui appelaient les femmes.
C'est l'alcool. Et pour fabriquer la poudre, il fallait de l'alcool sans goût. Hein? Bon goût, je veux dire. Bon goût. C'est-à-dire qu'il y avait des dérogations pour acheter de l'alcool éthylique venant des producteurs d'alcool, c'est-à-dire la viticulture, sans qu'elle soit dénaturée comme celle qu'on achète chez les pharmaciens. Quand j'étais jeune ingénieur, on fabriquait des projectiles avec des balles traçantes. Dans la balle traçante, dans l'arrière de la balle, on met une composition pyrotechnique qui s'allume avec les gaz de la propulsion et qui va éclairer et brûler pendant le trajet. Ce sont des perchlorates et autres produits dont j'ai oublié le nom, qui font en général une lumière rouge, ce qui permet de mieux le voir. Eh bien, pour faire ces mélanges, qui sont particulièrement explosifs d'ailleurs, et délicats, on utilise comme solvant l'alcool. Et nous avions des bons de dérogation, ça c'était, j'étais directeur du Mans, l'usine du Mans qui fabriquait ça dans les années 77-80, 80, plutôt fin des années 80, on avait des bons dérogations pour acheter de l'alcool bon goût.
Les nitrates sont vasodilatateurs aussi. Et non mais comme la trinitrine, etc. Et puis il y a eu des nitrates d'amyle ou autres qui ont eu des effets différents. Mais il est certain que la vasodilatation des nitrates, ça vaut bien le viol grave.
Moi je connaissais que l'alcool. Pardon. Quelques-unes. Oui. Oui. Mais en aparté.